Joanne Elliott, nous sommes au Festival du Livre de Mohan-Sartou et vous avez reçu un prix tout à fait récemment. Alors de quoi s'agit-il ?
Oui, tout à fait. J'ai eu le plaisir de recevoir le prix du livre engagé pour la planète. Voilà, je cherchais l'intitulé complet en catégorie ado pour mon roman Le Jardin des Chimères. Donc, qui est un roman d'anticipation en forme de thriller, mais qui parle de la disparition des espèces animales, qui est déjà, hélas, engagée et inéluctable. Et j'ai imaginé dans un futur proche qu'on était arrivé au bout, il ne reste plus que quelques spécimens d'animaux vivants sur la planète. Et comme on est dans un univers de science-fiction, un savant, peut-être fou, décide de créer de nouvelles espèces animales, des chimères, en mélangeant les gènes de plusieurs animaux. Par exemple, il mélange un tigre et une panthère pour créer un pantigre.
Oui, c'est la chimère, c'est un animal mythique, c'est un mélange en général de deux animaux.
Exactement, voilà, dans la mythologie grecque, si ma mémoire est bonne. Alors, pour partie, lion, chèvre et serpent, ce qui devait donner quelque chose d'assez étrange en réalité.
C'est un animal de mauvaise humeur. Probablement.
Oui, certainement avec ce livre.
Alors votre œuvre, c'est une œuvre d'anticipation, vous écrivez dans plusieurs domaines ou...
Alors j'écris généralement dans tous les genres de l'imaginaire, donc parfois l'anticipation, donc plutôt vers le futur, le futur proche, mais j'aime bien aussi jouer avec l'histoire, faire ce qu'on appelle de l'Uchronie, réécrire l'histoire. Voilà, par exemple dernièrement, plutôt pour adultes, j'écris un roman qui se passe pendant la Renaissance avec Léonard de Vinci et d'autres personnages historiques.
Mais qu'est-ce qui change dans ce roman par rapport à la réalité ?
Ce qui change, c'est que j'ai imaginé que Léonard, qui est au service de François Ier, lui a construit une machine pour protéger le royaume de France, une machine qui détraque les époques. Et par exemple, sur certains territoires, dans certains duchés, certains comtés, il y a encore des résurgences d'Empire romain, voire parfois de préhistoire. Enfin voilà, toutes les époques se mélangent. Voilà. Donc ça, c'est vraiment de la science-fiction. J'aime injecter de la science-fiction dans un fond historique, en fait.
Et en quoi votre roman pour lequel vous avez été récompensé parle de la protection de la nature ?
En quoi il en parle ? C'est pas tant qu'il en parle, c'est que j'ai poussé jusqu'à son paroxysme le phénomène en cours qu'on est en train de vivre, la 5e ou 6e, je ne sais plus, enfin extinction générale des espèces. On ne fait pas grand-chose réellement pour l'empêcher. Un très 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 grand nombre d'espèces, de poissons, d'insectes, de mammifères et autres ont déjà disparu, ça continue. Et moi j'ai juste imaginé voilà, que peut-être un jour on va arriver vraiment au bout du bout, c'est-à-dire qu'on va vivre dans un monde sans aucune espèce animale naturelle. Voilà, alors la question que je soulève, est-ce que la science peut pallier le problème ? Est-ce qu'on peut créer de nouvelles espèces ? Et puis finalement, ces nouvelles espèces, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est qu'un animal qui serait créé 100% en laboratoire, donc qui n'a pas d'instinct sauvage, qui n'a pas... Voilà, est-ce que c'est...
Vous amenez plutôt à la réflexion de ce qui se passe actuellement, quoi.
Tout à fait, voilà. C'est ce que j'aime faire quand j'écris ce genre d'anticipation, réfléchir au présent, pour éviter, si possible, le pire dans le futur. Voilà.
C'est une vision à travers les solutions scientifiques, pas politiques. Alors, ce serait quand même à eux d'agir.
On peut, honnêtement, oui, nos politiques, quelles qu'ils soient, là, je ne jette pas la pierre à un camp qu'un autre. Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire par rapport à un phénomène de masse comme celui-là ? Franchement, je dis pas qu'il n'y a rien à faire et qu'il n'y a pas de solution. Il y en a certainement. Et c'est à la limite pas forcément à moi de les imaginer, mais c'est un phénomène d'une telle ampleur et on est déjà engagé tellement loin que là-dessus, je reste peu optimiste.
Est-ce qu'on peut imaginer que la population prend conscience actuellement ?
À titre personnel, je n'ai pas moi vraiment conscience que globalement on s'en préoccupe vraiment et qu'on se rende compte vraiment de ce qui est non seulement en train de se passer, mais à quel point c'est déjà engagé. J'ai l'impression, mais je peux me tromper, que sorti de certains cercles écologiques, scientifiques et autres, au niveau du grand public, on est loin d'imaginer ce qui est déjà en cours à ce niveau-là. On vit vraiment la fin d'un monde, la fin d'un monde sauvage. Et c'est pas quelque chose à échéance de la fin du siècle. Ça arrive là, c'est en ce moment. J'ai pas l'impression non, qu'on se mobilise pour ça, mais à nouveau, quoi faire à titre individuel, quoi faire ? Honnêtement, je n'en sais rien.
vous alarmez, mais vous ne proposez pas de solution.
Ah ben je dirais non, le travail d'auteur, c'est voilà, c'est pousser un coup de gueule, lancer l'alerte, signaler ce problème. D'ailleurs, dans la grande tradition de la science-fiction, les auteurs de science-fiction voilà, ont toujours été des lanceurs d'alerte. Aujourd'hui, on a enfin conscience globalement qu'il se passe des choses autour du climat, mais ça fait jamais qu'un demi-siècle qu'on en parle en science-fiction, et qu'à l'époque, ça faisait rire un petit peu tout le monde. Voilà. Mais c'est pas nous les auteurs, hélas, à notre petit niveau, on n'a pas de solution à proposer. C'est aux scientifiques, aux politiques, comme vous l'avez rappelé, enfin aux gens qui ont un réel pouvoir. Moi, en tant que petit auteur de science-fiction français, hélas, je n'ai aucun pouvoir.
Une voix supplémentaire, plus maintenant.
Disons une voix, voilà. Et j'essaye, je fais beaucoup de rencontres avec les jeunes dans les établissements scolaires, etc. À mon modeste niveau, j'essaie au moins de leur ouvrir les yeux sur le monde tel qu'il est, en me disant que, bien ma foi, cette nouvelle génération, que je sens quand même davantage concernée que ne l'a été la mienne à l'adolescence sur ces problèmes-là, peut-être qu'elle, globalement, pourra agir d'ici peu, quand elle aura un peu de pouvoir pour ça.
Et vous avez un éventail assez large dans les tranches d'âge. Vous vous adressez à un large public, en fait, hein.
Je pense. J'écris certaines fois pour les 7-8 ans, plus globalement pour les ados au sens large, et je continue toujours aussi à écrire pour adultes. Ça, c'est parce que disons, j'aime bien varier les niveaux de lecture ou les niveaux de complexité.
Et les styles ?
Les styles aussi. Alors là, les styles, c'est pas tant la tranche d'âge qui va influencer le style pour ce qui me concerne, mais l'univers du livre. Voilà. C'est vrai que je vais écrire différemment si j'aborde un thème plus historique ou au contraire si je fais un thriller d'anticipation. Voilà, là j'aurai un style c'est très, très différent.
Et souvent avec une part de merveilleux visiblement, même si ça
oui.
Une chronie ou l'anticipation.
Il y a souvent
y a quand même cette part là chez vous.
Il y a toujours une très large part de merveilleux ou de fantastique, de façon d'imaginaire au sens large. Je serais incapable d'écrire un récit qui se passerait uniquement dans le monde réel. Je sais que je peux pas.
Et vos sources d'inspiration jeunes ont été
c'était un petit peu tous ceux qui sont considérés aujourd'hui comme des auteurs classiques en science-fiction, Philip K. Dick, Jacques Vance, Robert Silverberg, beaucoup de ces auteurs-là, pas mal de bandes dessinées aussi, et puis aussi tout le courant des feuilletonistes français, Maurice Leblanc, créateur d'Arsène Lupin, tous ces gens-là que j'ai découvert à peu près tous au même âge, et c'est tous ces gens-là qui influence, je pense, mes écrits aujourd'hui.
C'est vrai que c'est un panel d'auteurs liés à l'adolescence beaucoup. Hein.
Complètement. Et que j'ai gardé finalement, que j'ai pas abandonné, comme le font beaucoup. J'en suis passé à d'autres, j'ai découvert plein d'autres auteurs aussi, mais je suis resté très attaché à ces auteurs-là.
Et c'est vrai que Leblanc, c'est pas de l'anticipation, mais il y a un imaginaire aussi très important.
Complètement, et il était parfois aux limites du fantastique, voire au-delà. L'île aux 37 exactement, alors là qui m'avait impressionné.
J'avais eu peur.
Oui, non mais tout à fait. Qui est pour moi vraiment un petit chef-d'œuvre du genre.
Le prix qui a été décerné, donc le prix ado, quel est le retour que vous avez des adolescents ou lorsque vous êtes en collège par rapport à votre œuvre ou ce que vous ressentez du retour de ces jeunes lecteurs?
Il y a tous les cas de figure. Quand ils sont lecteurs d'imaginaire, il y a toujours un retour très, très, très positif. J'ai la chance qu'ils accrochent vraiment à mes écrits. Et puis sinon, la plupart du temps, alors soyons honnêtes, les jeunes sont à l'image des adultes, c'est-à-dire il y a un tout petit nombre de très gros lecteurs, il y a un grand nombre de jeunes qui ne sont pas plus lecteurs que ça, mais en revanche, qui ont gardé cette capacité de s'embarquer plus facilement dans le genre d'histoire que je peux leur proposer que beaucoup d'adultes qui ont perdu peut-être ce rapport à l'imaginaire.
On va rappeler le titre de ce livre.
Alors, Le Jardin des Chimères.
Aux éditions.
Aux éditions Scrinéo.